midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Bientôt on mettra votre nom, Erika. Bonjour, bienvenue, le Book Club de Beurre FM, l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent. Et oui, puisque cette émission est co-présentée par Erika. Bonjour Erika.
Bonjour tout le monde.
Ça fait plaisir de vous revoir.
Oui, ça fait plaisir d'être là.
Vous pouvez regarder sur la chaîne YouTube, hein, puisque l'émission est filmée, comme ça vous voyez Erika. On va parler d'un sujet qui vous plaît aujourd'hui.
La connerie.
Ouais, la connerie.
J'adore ça.
C'est vrai?
Ouais, j'adore ça. Pourquoi quand j'ai vu le titre, quand j'ai reçu le livre, j'ai dit « Ah super, enfin un truc qui va me faire rigoler ». Tout ce que j'aime.
Voilà, on parle de la connerie avec notre invité Samir Bouali, bonjour.
Bonjour.
Voilà, vous êtes comédien, auteur, metteur en scène et scénariste.
Oui, quand j'ai le temps, quoi.
Voilà, vous avez coécrit justement l'encyclopédie de la connerie ambiante aux éditions Pygmalion. Qu'est-ce que vous avez mis comme dédicace à votre idole, Pascal Pro?
Je crois que j'ai pas eu besoin de le dédicacer, en fait. Ce livre est un hymne à son immense carrière et surtout une forme de dommage à cette capacité que les adultes ont à, dès lors qu'ils ne se cultivent plus, devenir des enfants capricieux. Et voilà, l'idée c'est de quand même de se dire qu'on est dans un monde devenu un peu fou, où l'accès à l'information n'a jamais été aussi facile et où dans le même moment on fabrique de l'opinion, on se fabrique une opinion sans en référer sérieusement auprès d'experts. Enfin, l'idée c'est quand même qu'on est dans un monde...
Non, mais des experts, il y en a partout.
Voilà, oui, mais on en a besoin.
On est entouré d'experts.
Alors, je parle pas des experts BFM.
Cathodiques.
Voilà, cathodiques. Ouais. Il y a des experts autoproclamés, mais ce qui m'amuse beaucoup, moi, c'est notamment dans le livre, on en parle avec Sébastien, c'est des gens comme Dominique Rizet, je crois, qui parle de la police comme s'il en faisait partie. C'est très très drôle, c'est savoureux de le voir parler en acronyme, en faisant semblant de se tromper, en parlant de la DSTP, PPTTTTT, de GIGN, voilà.
C'est quoi ça? Vous êtes un expert quand vous balancez ce genre d'acronyme.
Et je trouve ça, Philippe, ce qui est génial là-dedans, c'est quand le mec se reprend en disant, pardon, oui, d'accord, donc je voulais parler de la direction régionale, de l'expertise, de la machin, etc. Il y a une sorte de connivence comme ça qui me fait beaucoup rire. Et pour revenir à notre idole Pascal Pro, ce qui est formidable, c'est qu'on est dans une époque où on confond le bon sens, la spontanéité avec la culture, tout bonnement, tout simplement.
Mais est-ce que finalement, alors, vous le mettez dans la catégorie des...
Des
cons, enfin,
Oui, mais c'est pas grave. Moi, j'en fais partie aussi. C'est pas grave. Ce qui est grave, c'est quand les gens se prennent au sérieux. Et lui, pour l'instant, il est sur la crête, là. Où il va devenir complètement crétin. Ou alors, il va garder une forme de fraîcheur et s'amuser de lui-même et du spectacle qu'il propose avec ses acolytes. Mais moi, je le soupçonne, et je pense que vous êtes d'accord avec moi, je le soupçonne de savoir très bien ce qu'il fait. Il est pas plus con qu'un autre.
Il fait de la télé.
Non,
il fait pas de la télé.
Il fait de la communication.
Il fait de l'audience.
Il fait de l'audience.
Voilà, c'est ça.
Pour lui, moi,
voilà.
Je l'ai connu sur les terrains, je l'avais croisé à l'époque.
Quand tu faisais du sport, du foot.
Voilà, je le voyais.
À Nantes.
Exactement. Puis même, moi, je l'ai vu galérer avec son agra, avec son chronomètre. Donc voilà, moi, je suis content quand les gens gagnent du pognon. Moi, je trouve ça bien. Moi, ça me dérange pas. C'est super. Puis il vient peut-être nous inviter, donc c'est vachement bien.
Bon, est-ce que vous pensez que vous en vendrez 50 millions à titre posthume?
À titre posthume, peut-être. Peut-être. Un peu moins de mon vivant. Mais à titre posthume, sans doute, d'ailleurs.
Ça marche mieux, en général,
oui.
Posthume. Bon, un bon pitch de votre livre, parce que ça, pitch, ça, c'est un mot qui résume l'époque.
Oui, ouais, c'est ça. C'est-à-dire, si on devait le pitcher, on dirait que c'est une sorte de panorama, comme ça, spontané, amusé, éclairé de ce que peut être une connerie ambiante. Alors, ça va des gilets jaunes à des sujets graves. Moi, on n'a pas eu peur avec Sébastien d'aborder des sujets plus sérieux comme la politique. Moi, je parle de Macron. Enfin, on parle de Macron, on parle de Mélenchon, on parle de ces gens-là et on essaye de traiter le sujet avec un peu de distance et d'humour. Mais par exemple, quand on parle des gilets jaunes, on est obligé d'avouer qu'au départ, cette chose-là était absolument géniale, incroyable, fascinante, le fait d'avoir détourné des symboles, détourné des ronds-points. Et pour finir, par être représenté aux européennes par Francis Lalanne, quoi. Donc, il y a comme quoi très vite on peut aller vers la connerie, quoi. Faut faire super gaffe tout le temps.
À quel genre votre livre appartient-il? C'est quoi? C'est
Je dirais que les livres qu'on écrit avec Sébastien et qui ressemblent un peu à ceux que j'écrivais avec Agathe Colombier-Hochberg sont des tentatives de littéraires. Ça reste écrit, c'est-à-dire qu'on ne l'écrit pas avec les pieds. Mais je pense que ça appartient à une version, on va dire, dédramatisée du manifeste. Ouais. Voilà. Et si c'est drôle, tant mieux. Hein. Le truc, c'est de faire rire les gens un
vulgairement,
peu.
Vulgairement, c'est regarder BFM TV avec des copains très intelligents qui ont un coup dans le nez. C'est vraiment ça. Moi, j'ai adoré. Non, mais c'est ça. C'est pas méchant. Au contraire.
C'est très
gentil. C'est vraiment le bon moment.
Lors d'un apéro dinatoire.
L'apéro dinatoire, c'est ça. L'apéro dinatoire. On se met BFM pour se prendre la, G. Et les potes, ils sont là et on rigole bien et on dédrama. Mais franchement, c'est tellement bon. Parce que on prend du recul sur tout. C'est un peu, vous savez, c'est un peu tout ce qu'on, ça avec tout ce qui se passe surtout en ce moment,
où
on est tellement en mode angoisse,
c'est
en mode,
c'est
l'apocalypse tous les jours. On a l'impression que voilà qu'il y a un truc qui va tomber sur nous, qu'on va tous crever. Ça permet de vraiment prendre du recul.
Et
surtout, c'est rigolo, mais pas que. On n'est pas juste pour, c'est pas la politique pour les nuls ou la culture pour les nuls. Non, c'est pas ça. C'est au contraire, c'est une analyse vraiment tellement fine et bien poussée sur chaque événement et en même temps tellement drôle. Franchement, rien que les phrases à chaque fois en dessous des titres. C'est le meilleur. Enfin, je veux dire, chaque minute de citation, on se marre.
Vous êtes en train de réduire le travail d'une vie
pas, au contraire.
À la phrase qui est sous les titres.
Non, parce que
comme quoi, Samir, on est peu de choses.
On est bien
peu de choses. Vous savez, quand vous allez au restaurant, des fois, vous allez. Entre manger un grec et aller manger au resto, on se mange un mini plat où il y a trois trucs qui se battent en duel, mais chaque bouchée, c'est un extase. Et c'est un peu ça.
Oh, c'est très gentil.
Non, c'est vrai.
C'est très gentil.
C'est vraiment. Parce qu'en fait, c'est pas un livre qui se prend, qui vous balance, c'est pas 300 pages de réflexion géopolitique sur le ça se voit comme du petit lait, comme on dit.
Non, c'est très gentil, mais faut rendre hommage à vous deux,
évidemment. Mais franchement, je veux pas être méchante, mais je vous imaginais plus jeune.
C'est vrai.
Oui,
c'est Sébastien. Je vais vous expliquer un truc. Quand elle dit je ne veux pas être méchante,
oui,
c'est qu'elle va être méchante.
Oui, voilà, on vient de me tuer.
Je vous imaginais plus jeune. Pourquoi, il a quel âge?
Moi, je vais avoir bientôt 49 ans.
J'allais dire 50, vous voyez, donc j'étais pas loin. Mais quand on lit, j'ai l'impression que je suis un trentenaire.
Mais vous aussi, un jour, vous avez 50 ans.
Il y a du trentenaire. Parce que Seb, moi, je suis resté très très con.
Et c'est très jeune.
Et Sébastien, c'est notre famille un peu comme ça. C'est-à-dire que moi, la chance que j'ai eue, c'est que du côté, essentiellement ma mère nous a toujours appris à rire et à dédramatiser. Et on rigole de tout, surtout quand c'est grave. Mais c'est vrai que là, pour aller dans votre sens, Erika, c'est vrai que la plume de Sébastien, le mélange de nos plumes et la connerie de Sébastien Dourvert, c'est du diamant, c'est un diamant brut, ce garçon. D'ailleurs, je vous invite à lire Bien choisir sa religion avant la fin du monde, le livre qu'on a coécrit là, où il a pu, dans ce livre-là, montrer toute la mesure de son immense talent. Et je conseille d'ailleurs son premier et dernier roman, bien sûr, qui s'appelle Cool Killer. Je me permets de faire de la pub, c'est à la Martinière. Et je trouve que c'est un roman formidable. Voilà. Bref.
Bien. Vous avez raison, mais ça aurait été tellement mieux s'il était à la fois con et là.
Oui, c'est exactement ça.
C'est ça le talent.
Ah oui, le talent.
C'est exactement le talent, il est là.
Oui, il lui manque ça. Il aura les deux. Il aura les deux, voilà, il va
bonifier. Il était prévu qu'il vienne.
Oui.
Ça vient d'où le mot con d'ailleurs?
C'est la meilleure partie du livre quand même. Pour moi.
Mais oui, pourquoi? Parce que
c'était très féministe. J'ai adoré.
Bah oui, parce que ça vient vraiment de là. Oui, bien sûr.
Parce que c'est un mot qui a migré.
Voilà. Bah,
absolument.
Et donc vous dites d'où le terme con comme une bite.
Exact, d'où le terme con comme une bite. Comme ça on
est. C'est marrant parce que il y a plein de mots que vous n'arrivez pas à dire, mais con comme une bite, vous arrivez à le dire.
Ça passe tout seul.
Bah oui.
Je puis dire.
Oui.
On mettra des bips si je peux me permettre.
Faites.
Parce que c'est une émission familiale.
C'est une émission familiale, d'accord. On va essayer de mettre des.
Non, mais voilà, oui. Mais de toute façon, il y a. Oui, on peut conclure. Voilà, bref.
Le conus primerus, il vient du.
Alors là, le conus primerus, ça, excellente question. Excellente question.
Qui est le premier conte de l'histoire de l'humanité?
Je sais pas. Je crois que je sais pas. Et c'est une super question. En tout cas, on va vers l'homo conus. Hein. Ça, c'est clair qu'on est en train de devenir tous des conus. Et je me suis fait la réflexion. Le premier réflexe, quand même, aujourd'hui, je suis arrivé dans ce studio, j'ai été très bien accueilli. Et au bout de 3 secondes, j'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à m'amuser avec mon smartphone. Erika est en train de regarder son écran. Sans doute, on regarde ses notes. Regarde-t-elle ses notes pour l'émission en cours? Mais c'est
exactement.
Vrai que moi, quand je me lève le matin, je regarde mon téléphone et avant de m'endormir, je regarde mon téléphone. Et je pense que là, on est dans une sacrée panade. parce qu'on est, moi je regardais le temps de veille, c'est-à-dire qu'en fait a priori je passe l'équivalent de 5 heures par jour.
Ils te le disent, en plus voilà. Le téléphone te le rappelle toutes les semaines.
C'est quand même incroyable.
C'est horrible.
C'est-à-dire qu'en fait ce temps-là n'est pas consacré à la lecture, par exemple, de nos livres, de cet excellent livre par exemple.
Venez travailler pour Philippe, vous allez voir. Oui. Vous allez vous mettre à lire beaucoup la nuit.
Je sais parce que vous êtes champion de France de lecture rapide.
Non, je suis champion du monde.
Du monde.
Ouais. Alors, je peux me permettre de vous...
Non, mais j'ai failli finir dans votre livre, c'est ça qui m'a fait peur, puisque comme il y a des champions du monde d'à peu près tout, je me suis dit, la fois prochaine, je suis dans le livre.
Mais vous êtes bon, là, c'est bon, là, ouais. je vais vous... On va
c'est le truc qui sert à rien, champion du monde de lecture rapide. C'est le truc qui sert à rien, sauf dans mon métier.
Voilà.
Oui. Mais alors, je peux me permettre de vous poser une question, Philippe.
Oui, allez-y.
Mais c'est-à-dire que, par exemple, vous avez lu le nôtre, le dernier, en combien de temps, par exemple?
Aux 2 heures.
Purée.
Ah, c'est quand même étonnant.
Ah, moi, j'y suis depuis que je l'ai reçu, tous les soirs.
Ah ouais.
Ah bon, non, c'était long.
Moi j'ai 8 gosses à m'occuper à côté.
Ah oui, 2 heures c'est long.
Non, c'est long, c'est parce que j'avais une émission à préparer.
Voilà, moi j'ai 8 gosses, donc on échange, je vous passe mes 8 enfants pendant une semaine et après on verra.
Erika, vous avez eu 8 gosses.
Oui, j'ai 8 enfants.
Mais pourquoi ça?
Parce que j'adore avoir des enfants.
Eh ben très bien.
En plus les faire c'est agréable, donc.
Les prénoms vous les connaissez tous ou pas?
J'ai pas compris. C'est les porter ou les faire qui
les
est
deux.
Agréable? Parce que là.
Les deux.
Mais vous vous rappelez de tous les prénoms?
Des fois non, j'avoue, ils me disent maman, mais c'est moi, c'est pas ça, moi c'est. Je dis ah c'est bon, c'est pareil. Oui, au bout d'un moment, des fois, dans l'énervement, on confond quelques prénoms. Donc, des fois, je donne le numéro quand je zappe.
Ouais.
Voilà, dis-toi, 2.
Voilà, c'est bien, c'est une excellente idée, ça.
Vous voulez qu'on en parle, Erika?
Je devrais être dans le livre aussi, moi, tiens.
Ouais, je pense que là, on a. C'est dommage que Sébastien ne soit pas là parce qu'on a peut-être un début, là. Il y a peut-être un truc, le tome 2.
Un scénario.
Vous déglinguez toutes les idoles bobo, un petit peu. Ouais. Alors, vous respectez rien, même pas Pierre Rabhi.
Personne.
Bah, surtout pas Pierre. Surtout pas Pierre Rabhi, parce que...
L'inventeur du Canadair.
Bah oui, là, oui,
moi, j'ai pleuré.
Bah oui, mais c'est vrai.
Moi, je l'ai connu il y a 25 ans, personne n'allait le voir.
Bah,
il n'y avait que nous qui faisions des reportages sur Pierre Rabhi. Et maintenant, c'est Brad Pitt.
C'est Brad Pitt, c'est Madonna, c'est...
Oui, c'est voilà. Marion Cotillard.
Marion Cotillard. Non, mais c'est ça qui est formidable avec ce type-là, qui prône un peu la théosophie, Steiner, tout ça. Et c'est des mecs finalement dangereux, et qui sont totalement... Alors, ils ont leur quart d'heure de gloire qui dure depuis plus d'un quart d'heure, et ils prennent du pognon, tant mieux. Et quand même, le mec, tu fais un reportage, et le gars, il dit, moi, je dors par terre sur une paillasse. T'as envie de lui dire, mais partage, donne-le ton pognon.
Parce que c'est un business.
C'est bien sûr, c'est un business. Après, encore une fois, moi, je pense qu'il faut pas, bien sûr, montrer du doigt les gens qui gagnent du pognon, mais il faut qu'il arrête de raconter des conneries, cet homme-là. Ça va, l'histoire du Canadair avec la goutte d'eau.
Non, c'est pas le Canadair, c'est le colibri.
Oui, le colibri. Sachant que le colibri, il sert à rien. Dans la fin de l'histoire, il fait comme tout le monde, il y passe. Mais c'est tellement drôle. Commence par donner une petite goutte, machin. Fais un petit geste et tu verras les choses.
Respecte rien.
Mais non. Bah non.
Même pas la copine qui est devenue coach en développement personnel. Là j'ai pleuré
anecdotes.
Parce que je dois dire, j'ai reconnu tes copains. Copines.
Non,
mais c'est terrifiant. C'est-à-dire, à une époque, c'était les DJ. Et maintenant, quand tu. Voilà, il y a une catégorie de gens, c'est des coachs. Alors, il y a tout, il y a la sophrologie.
Ouais.
Bon, bien sûr, le yoga, ça c'est clair. La sophrologie,
non,
maintenant.
La yoga, c'est pas la même catégorie.
Enfin, bien sûr. Non, mais il y a des vrais. Non, mais là, je parle vraiment de ce qui nous entoure. Et puis après, il y a. Là, mais il y a tout. Il y a tout ça, ça nous passionne. Et puis, bon, après, par extension et d'un point de vue sociologique, il y a les start-upers, il y a la French Tech. Il y a la French Tech, quand même. Il fallait la sortir, celle-là.
Moi, j'adore.
La French Tech.
Moi, je pense que Macron, comme ça, il est bien pour ça.
Bah, oui,
conceptualiser un peu cette.
Oui, bah, il y a de ça. Bah, de toute façon, il est philosophe de formation. Il est quand même pas. Enfin, je veux dire, il a un cerveau. Mais là, il se trompe un peu parce que c'est ce qu'on écrit dans le livre d'ailleurs.
Vous présentez bien.
Bah, oui, c'est-à-dire que le problème, c'est qu'on peut pas avoir. On peut pas
vous
avoir.
Résumez vraiment bien.
Bah, oui, parce que on est plus dans les 30 glorieuses. Je veux dire.
Plus sous Pompidou, c'est ce que vous expliquez.
Oui,
alors il faut expliquer aux plus jeunes qui étaient Pompidou et Madame Pompidou. Quand même.
C'était un couple formidable. Madame Pompidou était tout en légèreté, tout en finesse, tout en
courage,
tout en courage aussi, ouais. Bravo. Ouais. Et tout en poésie.
Les gens ne savent pas ce que c'est, savent plus que qui est. Enfin, ouais, cette marque-là aussi.
C'était la modernité. Elle incarnait la modernité.
Et lui aussi.
Il roulait en Porsche.
Elle a redécoré entièrement l'Élysée.
Elle se tourner vers les designers, elle adorait.
Il y avait Hagan à l'Elysée, je veux dire, je crois qu'ils les ont gardés encore.
Oui,
hein.
Probablement, oui, ouais. Probablement. Mais
Paulin, Hagan, enfin, c'est le truc de folie.
Mais c'était formidable, mais le problème de ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on tente d'appliquer un discours progressiste, d'enjeu, d'envie, etc., Alors qu'on sait très bien que la France n'est plus ce qu'elle était à l'époque de Pompidou. Donc ça devient très très compliqué de donner l'impression à tout le monde qu'ils peuvent réussir. Par ailleurs, moi, la petite musique qu'il y a derrière, et celle qui m'ennuie le plus, par ailleurs, c'est le côté si vous n'y arrivez pas, c'est un peu de votre faute. Ouais. Qui peut se traduire par je traverse la rue et je te trouve du travail. D'ailleurs, il aurait dû le faire.
La philosophie du moment.
Voilà, et je trouve que ça, c'est super dangereux. D'abord, parce que sans être ni de gauche ni de droite, peu importe, je trouve que c'est quand même très dangereux d'emmener les gens dans cette espèce de chaos psychologique là, c'est-à-dire les faire culpabiliser d'un manque de réussite ou de rebond. Et notre monde est quand même devenu un monde de connards dans la mesure où les destins s'individualisent, les aventures communes n'existent plus. Bon, je vais pas refaire la grande chanson des utopies qui sont tombées, etc., et des icônes qui se sont cassées la gueule, mais
si vous voulez la chanter en direct, on peut, tiens. Mais par contre, après une page de publicité, puisque est temps de faire entrer de l'argent dans la caisse, Samir Boily est notre invité ce matin à l'occasion de la publication de l'encyclopédie de la connerie ambiante. L'éditeur, c'est Pygmalion.
Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Alors, Erika, aujourd'hui, on parle de l'encyclopédie de la connerie ambiante aux éditions Pygmalion.
Totalement d'actualité.
On est à 50% avec nous. Hein, c'est Samir Boily, comédien, auteur, metteur en scène.
Boily, Philippe, prononcez-le bien sur Beurre FM, sans
déconner. Et scénariste. Non, c'est moi qui l'ai mal écrit. C'est que je l'ai mal écrit. Voilà. Maintenant, c'est beaucoup mieux comme ça. Bien. Et on attend donc votre auteur.
Un génie.
Mais enfin, ceci dit, ce qui m'a fait...
Oh, si ça avait été moi.
Alors, oh là là.
Si ça avait été moi, je ne me serais pas fait allumer.
Ah si. Voilà. Ah, si. Voilà. Mais c'est moi.
La hiérarchie. On ferme sa bouche pour être poli.
Bon, allez-y, enchaînez.
Alors qu'est-ce qu'on dit? Oui, on attendait donc Sébastien Dourvert, ce grand génie avec qui j'ai eu la chance de coécrire ce livre.
Et je voulais vous allumer parce que finalement, vous êtes comme il est soi-disant beaucoup plus jeune que nous.
Ouais.
Donc a priori, ce garçon, c'est lire un GPS.
Non, il est con.
C'est
pour ça que je travaille avec, c'est essentiellement parce que, c'est-à-dire, je suis tellement fasciné, je suis sidéré par cette connerie. J'annonce que quand même, il maîtrise mieux l'informatique, tout ce qui est écran que nous.
Incapable de se déplacer dans la rue.
Bah non, il peut pas se repérer. Ça fait une demi-heure qu'on l'attend. Il est paumé. C'est bien. Mais c'est pour ça que moi, ça m'inspire de bosser avec des gens comme ça.
Et les VTC, c'est pas fait pour les chiens.
En plus.
Uber, tout ça.
Ouais, non, mais je sais pas.
Pourquoi c'est con pour vous, par exemple, les VTC, pour vous? Expliquez-nous.
Parce que, d'abord, c'est con dans la mesure où ça donne... d'abord, ça ubérise l'histoire d'exploiter les gens comme ça. Il y en a marre à un moment donné. Enfin, c'est terrifiant, etc. Alors, il y a le revers de la médaille, il y a des bons aspects, etc. Le problème de Uber, c'est qu'au-delà d'asservir toute une catégorie de gens... ça contribue à donner encore une fois l'illusion de cet auto-entrepreneuriat qui permettra aux gens de s'épanouir, etc. Moi, je crois que c'est surtout une manière de bien enfumer le monde. Et par ailleurs, dans la ville dans laquelle nous vivons, à savoir Paris, rien n'est fait pour les VTC. Hein, c'est-à-dire qu'autant prendre une trottinette, quoi. Ouais. Bon, enfin bon, il y a beaucoup de trucs comme ça. Hein, c'est-à-dire qu'on est
parce que la trottinette, c'est tellement plus intelligent. C'est ça qui est bien.
C'est-à-dire que moi, pour le coup, quand des adultes continuent de se comporter comme des enfants. Moi, je ne comprends pas. Mais en même temps, c'est fascinant. C'est-à-dire que c'est fascinant. On est arrivé à un moment d'incandescence de la connerie. Et en plus, quand on habite dans le centre de Paris, ce qui est mon cas, là, ça va mieux. Là, ils sont calmés. Mais à un moment donné, moi, je zigzaguais quand même. Enfin, moi, je faisais un parcours. J'organisais. Tout était travaillé, précis. J'organisais le truc pour éviter les obstacles, pour aller à la boulangerie en un temps record, à savoir une demi-heure, alors que c'est juste en bas.
Ouais.
En faisant gaffe à pas me faire écraser par un vélo qui prend le contresens, etc. Tout est devenu dingue et on ne sait pas qui va être élu maire de Paris dans 5 mois.
Oh, moi, je vais vous le dire. Hein.
Vous pensez?
Venez,
on fait du Pascal Pro.
Hors antenne. Ouais, j'avais vu Trump bien avant tout le monde. Hein.
Bravo, ouais. Bien joué.
Ouais.
Bien joué.
C'est quand
Kim et Donald, ils s'en prennent plein la tête dans le livre d'ailleurs. C'est super. Kim et Trump.
Ah bah oui.
Kim qui titille là.
Ah oui.
Attention, si vous êtes pas ça, moi je vous envoie.
Alors Kim pour tout le monde parce que.
Ah oui, pardon. C'est mon pote.
C'est pas l'animateur du matin. Je vous dis tout de suite. Hein.
Non. On parle.
Kim, c'est un gentil dictateur sur un cheval blanc. Sa dernière com, vous l'avez sous sa belle
tout
image.
Tout est incroyable.
C'est incroyable. Lui, c'est vraiment.
D'ailleurs, Sébastien en parle sans doute mieux que moi, mais il y a vraiment là-dedans.
C'est un délire, lui. Hein.
C'est un délire, ouais. Il y a un côté bande dessinée.
Mais complètement. Le mec, il est dans. Voilà, il vit dans un. En fait, il écrit un scénario et il vit son film dans la réalité.
Non, mais c'est formidable. En même temps, moi, je suis content d'être vivant à cette période.
Pour voir ça, ouais.
Oui, mais c'est. C'est dingue, parce que ou ça pète totalement et voilà, c'est là, ou alors on va vraiment se calmer, quoi. Enfin, je sais pas, mais c'est.
Mais c'est vrai que autant c'est drôle, autant du coup on commence un peu à flipper parce qu'on se dit, mais c'est pas con ce qu'ils disent, parce que finalement on est dans un monde qui tient dans les mains de cons. Et ça fait juste flipper.
Mais est-ce qu'il y a une connerie d'époque? Est-ce que par exemple il y a des millésimes? Et les gens auraient des conneries adaptées à leur
époque.
Est-ce
que je peux répondre? Moi, ouais, je pense qu'au 19e, du coup, fin 19e, début 20e, on était dans la connerie façon Kafka, vous savez, un peu. Après, on a eu l'absurde aussi dans le littéraire. Ouais. Là, on est dans la connerie, mais connerie, on rit jaune. Parce que c'est drôle, mais en même temps, nos vies. C'est-à-dire que l'absurde que dénonçait Kafka ou ces gens-là, je cherchais un nom, c'est pas grave.
Unesco,
voilà. Ouais. Cette connerie-là, cet absurde-là qu'il dénonçait, il était à la rigueur un peu drôle parce que voilà, c'était des artistes qui parlaient d'un système de vie. Mais là, en fait, ce que vous montrez, c'est que la connerie, elle est dans les mains de personnes qui eux-mêmes sont clairement pas nettes, quoi.
Oui.
Voilà. Donc ça fait flipper.
C'est-à-dire que ce qui fait flipper, d'ailleurs, Sébastien en parlera mieux que moi, mais. Ce qui fait flipper, c'est
bien,
la manière.
Ça tombe bien, il vient d'arriver.
Il vient d'arriver, ça tombe bien.
Bonjour, la manière.
Ah voilà, lui, il est jeune.
Non, j'ai l'air jeune. Je suis infiniment désolé. C'est la connerie qui m'a retenu.
Hein. Bah, il ressemble à l'auteur du livre.
On nous a quand même. On nous a quand même fait descendre du bus parce que les gens s'insultaient.
Mais non.
Ah,
voilà. Formidable.
Mais c'est Paris,
voilà. Il faut raconter ça.
Les gens se sont hurlés dessus parce qu'il y avait un caddie dans le passage.
Ah, oui, d'accord.
Et ça a très mal tourné.
D'accord.
Les gens ont commencé à demander aux autres de sortir leur carte d'identité, de savoir qui était plus en droit d'avoir le passage.
Et ben voilà, on est chez Kafka, là, ça y est.
Et on est descendu du bus, et donc je me suis retrouvé au milieu de
Lost in the middle of nowhere.
Voilà,
oui, c'est ça.
Avec
genre t'es français ou t'es pas français, quoi.
J'osais pas le dire, mais c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Qui était le plus handicapé aussi? Donc les gens ont sorti leur carte d'handicapé, et puis le chauffeur était très très cool. Donc il a essayé de calmer le jeu. Et puis finalement, la décision a été prise que tout le monde descende et le mec est parti marre, quoi. Et donc ça a commencé. Et c'était une bagarre de vieilles dames et d'handicapés.
C'est génial.
C'est-à-dire qu'en bas, c'était des gens avec des cannes. Enfin, c'était tout était.
T'as filmé ou pas?
Non, j'essayais juste.
J'étais à l'heure.
Voilà. Mais j'étais comme un chien qui évite l'affrontement. Je regardais ailleurs et je faisais comme s'il se passait rien.
T'as pas filmé, t'es fou.
Non. Justement. Je voulais pas apporter au cycle de la connerie.
D'accord. Dommage.
Je voulais pas surenchérir, le mettre sur YouTube. Qui déclenchait une émeute. Pascal Pro,
il ouvre son émission avec ça. Hein.
Pascal Pro, il hurlerait en disant que c'est.
Non, il ferait un direct.
Et lui, il conclurait par.
C'est à ça que ressemble la France.
Voilà. Non, mais il conclurait par on marche sur la tête.
C'est voilà. Ça.
Ouais. Non, ça. Il inviterait deux personnes qui n'ont rien à voir.
Voilà.
Et puis ils en débattraient pendant une heure.
Absolument.
En se demandant qui avait raison, qu'est-ce qu'on peut en tirer.
Exactement.
Donc je vous présente mes excuses pour ce retard inadmissible.
Quelle époque épique.
Eric Folle hurlerait, ouais, je vous l'avais dit, et l'autre dirait, mais enfin, ça n'a rien à voir, c'est pas parce qu'ils sont, voilà, que machin, voilà.
Ils auraient leurs indignations de circonstances, de toute façon, c'est leur métier, et ils sont payés pour ça.
Leurs indignations, on va dire, identitaires, on va dire même, c'est de l'ordre de l'ADN, tout se ramène à ce qu'ils sont. Voilà.
C'est pas des postures.
Je crois pas. Dans le cas de Youfol, ou alors vraiment il est très très bon comédien, ce qui m'étonnerait.
Alors, Yvan Youfol, pour ne pas le citer.
Ouais, monsieur blogueur Figaro, c'est ça?
C'est Figaro, ouais. Éditorialiste, je pense, au Figaro.
Éditorialiste, ouais. qui ne sait toujours pas d'ailleurs, tiens, qui ne sait toujours pas s'il est de droite ou de gauche, expliquait-il, chez le génie.
Nous on sait quand même.
Voilà, on a une vague idée en fait, on peut l'aider.
Mais après, c'est aussi systémique parce que tous ces gens-là sont recrutés parce qu'ils font du bruit. Donc, s'ils étaient.
Ils sont payés pour ça, c'est leur métier.
S'ils étaient rationnels et mesurés et bienveillants, ils seraient sans doute dans une autre émission d'ailleurs qui n'existe pas. Donc, c'est aussi comme ça que ça se passe aujourd'hui. Et ces émissions-là qui coûtent très peu d'argent. On fait deux heures d'antenne en parlant de absolument n'importe quoi. Non, le matin, on se demande de quoi on va parler, qu'est-ce qui énerve les gens, et puis on fait venir tout le monde, et puis voilà, tout le monde discute.
Et c'est vrai que ça coûte pas cher.
Mais c'est implacable comme.
Mais c'est de la radio filmée, hein, quand même.
On refait le match.
Ouais. Avec, y a eu quand même une gradation. Nous, c'est ce qu'on pense, c'est-à-dire que il y a eu une libération petit à petit de la, comment dire, du droit à dire n'importe quoi. Avant, quand même, il fallait pour s'énerver sur une antenne, il fallait à minima être un peu spécialiste du sujet. Maintenant, on peut s'indigner comme on veut.
Enfin. Mais d'ailleurs, en tant que spécialiste du sujet de la connerie. Si je peux me permettre, les mecs, enfin Sébastien vient de me connaître, donc je me prends un peu de familiarité.
Il y a un jeune qui arrive, elle commence à parler de jeunes. Je suis affolé.
Quand même.
Je vous rappelle que je suis pas jeune, hein. J'ai 38 ans. Non, j'ai 39 ans.
On a le même âge, donc oui, on est jeune. Ah, voilà. On est très jeune, pardon.
Voilà. Je suis désolé.
S'il vous plaît. on prend du recul sur le livre. Donc ça, on entre bien dans le sujet, c'est-à-dire que vous dites bien que voilà, en gros, tout le monde est con et que voilà, qu'on est tous un peu des monsieur pignons et tout ça. Mais que vous aussi, vous l'êtes, donc vous rentrez un peu dans. Vous dites, ouais, on peut se permettre de dire que vous êtes con parce que nous aussi, on l'est de toute façon. Mais quand même, nous, on est moins con que vous parce que nous, quand même, on a une analyse sur ce qui se passe et que nous, on a réussi à se rendre compte que là où on vit, c'est. Donc il y a quand même ce côté un petit peu, ouais, nous, on est quand même plus brillant que vous. On est quand même moins con que vous.
Bah oui, forcément, on est.
Voilà, c'est ce que je voulais comme réponse. Il assume.
Non mais la définition.
D'avoir l'analyse de.
Ça peut être une définition du con, ce que vous êtes en train de dire. Ouais. C'est-à-dire le con, c'est quelqu'un qui peut peut-être penser que il peut de lui-même avoir une lecture du réel à peu près stable, oui, objective, etc. Ouais, et puis le con pense peut-être avoir une définition de la connerie. C'est peut-être voilà. Mais bon,
après,
voilà.
C'est aussi notre métier d'auteur. C'est aussi notre métier d'auteur de regarder les choses et avec nous, pourquoi on écrit ce livre, c'est parce qu'on aime bien être tous les deux. Ouais. Donc ça nous permet de nous voir une fois par semaine pour écrire un livre. Ensuite, on essaye d'écrire quelque chose qui nous fasse rire.
D'accord.
Donc la connerie, ça nous fait rire. Et on aime bien rire de nous-mêmes. Après...
Mais quand on en fait plus de 200 pages, est-ce qu'à un moment donné, on a 50 pages de trucs qui sont vraiment cons et 150 de trucs qui ne le sont pas?
Non, c'est l'inverse. Parce que là, on est vraiment dans le florilège pour nous. Parce que très honnêtement, tous les jours, quoi. Je veux dire, Dupont de Ligonnès, c'était vendredi. Enfin, il y a un moment, tous les jours, on se dit, voilà. Et la blague, je vous en prie, ne la faites pas. J'espère que vous ne l'avez pas faite. Normalement, tout le monde nous dit, c'est en combien de tomes? et nous, on fait rien. Donc, en réalité, on a plus essayé de prendre d'abord des choses qui nous faisaient rire. Ou qu'on avait envie de dire, mais sans aller sur des choses qui sont tristes ou nauséabondes. Hein, les sujets qu'on trouve un peu trop touchy, on les a juste abordés sans donner notre avis réellement. Et ensuite, on
s'est
vraiment marré.
Qu'est-ce que vous appelez trop touchy alors, par exemple?
Tout ce qui va être progressisme à l'américaine, puritanisme, tous ces sujets-là qui sont très complexes. Moi, je me suis récemment fait traiter d'homme blanc cisgenre dans un dîner.
Mais justement, c'est le chapitre sur le cisgenre, super. Sur le.
Alors, non, touche pas mon porc. Non, mais il faut expliquer cisgenre.
Ah, oui. Alors cisgenre, moi non plus, je savais pas ce que c'était.
Il est excellent. On rigole tout le long de la lecture du truc.
Non mais
c'est excellent.
Le cisgenre, ça signifie que c'est par opposition à transgenre. C'est dans l'idée du progressisme américain, pardon, qui est extrême et qui consiste à des idées qui sont en train de se diffuser en France, en particulier dans les universités. Il faut le savoir. Hein,
voilà. Je rappelle que Marin Fouquet nous en a parlé la semaine dernière.
C'est pour ça que je dis. C'est, voilà.
Mais c'est extrêmement impressionnant.
Mais il a dit plusieurs fois, il le revendiquait. Moi, je suis un blanc cisgenre.
C'est très impressionnant. Ouais. C'est très impressionnant. Donc, parce que c'est toute une dialectique c'est toute une boîte à outils en fait issue des États-Unis qui est offerte et qui passe par une espèce d'extrême gauche française. Enfin, bon, nous on n'a pas voulu faire un bouquin là-dessus.
D'accord. Donc ça veut dire que
vous acceptez le sexe qu'on vous a donné,
vous êtes
officier d'état civil à la naissance. C'est-à-dire on vous dit vous êtes un garçon, vous êtes d'accord. Si vous êtes d'accord avec ça, vous êtes cisgenre.
Mais est-ce qu'il faut le dire? Est-ce qu'il faut l'affirmer?
Il faut l'affirmer.
Maintenant,
ça fait partie de ces théories. Normalement, même quand ils se présentent, les professeurs, par exemple, dans certaines universités qui sont, on va dire, gangrénées par cette mouvance, quand ils se présentent, commencent par dire ça. Ils appellent ça assumer leur privilège. C'est-à-dire que vous dites, je suis un homme blanc, donc déjà, je suis privilégié. Je vis à Paris, je suis privilégié.
C'est ce qu'on a vécu la semaine dernière.
Et ainsi de suite, et ainsi de suite.
Je vous invite à regarder un film qu'on trouve sur YouTube très facilement, qui s'appelle Evergreen.
D'accord.
Qui parle de ce campus aux États-Unis qui est devenu totalement fou avec une sorte d'épidémie de crédulité dès lors que les professeurs blancs ont décidé de réellement culpabiliser de l'être. Et en fait, je vous raconte pas la suite parce que c'est un document.
Mais ça va encore plus loin que ça.
D'accord.
C'est vraiment peur.
Hein.
C'est exactement ce qui m'est arrivé dans le bus, c'est-à-dire qu'il y a un jeu de savoir qui est plus blanc, qui est plus français, qui est plus noir, qui a plus souffert, etc. Et il y a une gradation comme ça.
D'accord.
Après, le problème c'est que le cycle de la connerie s'enclenche et que donc vous avez d'un côté l'extrême gauche qui dit ça doit marcher comme ça, l'extrême gauche, je simplifie, hein, parce que ça, c'est pas que ça l'extrême gauche. Et de l'autre côté, vous avez une partie de l'extrême droite qui dit ah regardez ce qui se passe, et tout le monde, et nous on est au milieu, on a un peu rien à cirer,
voilà. On n'a pas d'avis. En plus, mais nous, on est amené à en avoir un.
Voilà. Voilà. On nous force
exactement, et on est amené donc à radicaliser notre opinion sur ces sujets-là, mais alors que on s'en fiche.
Mais voilà. C'est intéressant ce que c'est très intéressant, voilà, ce que vous dites.
Comme d'habitude.
C'est intéressant parce que on est pris en otage dans la mesure où si on se rappelle de ce qui s'est passé par exemple sur l'histoire du voile avec le crétin qui dit à la dame de sortir, etc. En fait. Tout est résumé dans cette situation-là. Pourquoi ? On a d'un côté un type qui est clairement un petit facho, et de l'autre côté une dame qui porte un voile. Moi, je suis contre le port du voile à titre personnel. Mais bon, la loi ne l'interdit pas, donc le problème est réglé. Sauf que ce qui se passe...
Vous voulez qu'on en parle ?
Ce qui se passe concrètement, c'est que tout le monde est obligé...
D'avoir un avis.
Et les gens qui n'en ont pas, comme moi, par exemple, en l'occurrence, bon, m'en fous un peu...
Non, parce que vous êtes contre.
Oui, moi je suis contre le voile, par exemple. Là, je vois qu'aujourd'hui,
on va dire les choses, on n'est pas très religieux.
Moi, notre avant-dernier bouquin parlait de ça aussi.
Bien choisir sa religion avant
la fin du monde. Mais ce que je veux dire par là, parce qu'en fait, j'arrive pas à le dire très bien. Ce que je veux dire, c'est qu'on est obligé d'aborder ce sujet-là, puisqu'on nous l'impose. Et comme on fait partie de ces gens qui sont modérés, on n'intervient pas dans le champ social, y compris dans le champ social à travers les réseaux sociaux. Ce qui fait que les plus motivés sont souvent ceux qui se trompent le plus, mais ce sont eux qu'on voit le plus. Voilà.
Comme les gens normaux ne prennent pas la parole,
vous êtes débordés par des avis qui sont à l'extrême.
Ils viennent combler un vide, comme vous dites, par rapport à Wikipédia, ils viennent combler un vide qui n'existe pas. Mais le pire, c'est que dans ce que vous dites, le pire de ça, c'est que même les voilés, en l'occurrence moi, on s'en fout aussi. Vous voyez ce que je veux dire. Même nous, on s'en fout que les gens aient un avis. Même nous, on s'en fout de savoir.
Complètement.
Voilà. Donc, ils nous obligent à prendre position, à défendre un machin.
C'est ça.
Et là, je vous oblige à faire une pause. Voilà, c'est comme ça. Donc, maintenant, ils sont deux. Donc, vous en avez deux pour le prix d'un. Deux cons parlent aux cons. Donc, ce matin, Samir Bouadi est notre invité avec Sébastien Dourvert. Et vous avez écrit tous les deux Encyclopédie de la connerie ambiante chez Pygmalion.
Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Bien, Erika, aujourd'hui on parle de conneries avec nos deux invités. On a Samir Bouadi qui est là, Sébastien Dourvert, et tous les deux, ils ont écrit Encyclopédie de la connerie ambiante aux éditions Pygmalion. Donc il y a beaucoup de sujets. Je disais tout à l'heure que vous ne respectez rien. Alors pour la santé, là on en prend pour son grade. Ouais. Je peux vous assurer que moi qui anime une émission de santé tous les jours sur cette même antenne, j'ai reconnu à peu près tous les sujets que je traite, sans discernement.
Par exemple
alors les fleurs de Bach. Bon,
ah ouais, ah, les fleurs de Bach,
c'est génial.
C'est génial.
Le docteur, mec a inventé avec ça. Tout le mal qu'il s'est donné, le docteur Bach, franchement.
C'est merveilleux.
Là, vous voyez.
Non, mais il y a une forme de génie derrière. Après, nous, pour le coup, ça nous amuse, hein, jusqu'au moment où les gens essayent de soigner leur cancer avec. D'ici là, ça nous fait rire. Quand c'est remboursé, ça commence à plus nous amuser.
Vous prenez l'exemple de Steve Jobs. Par exemple, lui, il n'a pas utilisé de fleurs de Bach.
Non.
Mais
non, il a fait de la méditation.
Bah, il a fait de la méditation.
Pardon, voilà. Pardon, je rigole. Voilà, non, mais l'homme le plus intelligent du monde. Parce que c'est ce qu'on veut dire aussi, c'est qu'il y a la connerie. Il y a un truc dans le monde aujourd'hui, c'est que à partir du moment où on est riche, à partir du moment où on a une belle bagnole, ça veut dire qu'on est intelligent. Mais en fait, c'est totalement faux.
Oui, mais c'est pas vrai.
C'est-à-dire que
Par rapport à votre système de valeurs, peut-être que lui, était aligné avec ce qu'il pensait.
Non, mais parce qu'en fait, Philippe, c'est intéressant ce que vous dites là, parce qu'en fait, nous. On est con, mais là où on est un peu moins con, c'est qu'on a décidé de se tourner systématiquement vers les gens qui savent de quoi ils parlent. C'est tout. En fait, si ça peut aider les gens, l'encyclopédie de la connerie ambiante, c'est juste ça. C'est de dire la meilleure façon de se faire enlever une carie, c'est pas en demandant l'avis du voisin, c'est en allant voir un dentiste. Et si en plus il est bien, c'est encore mieux. Et si notre société pouvait de temps en temps fonctionner en confiance avec l'expertise, avec la rationalité, sujet qui nous est cher, Sébastien et moi-même, ça serait pas plus mal.
Mais on est d'accord qu'elle ça aussi c'est en évolution.
Je sais pas.
Science est en évolution.
Ah oui, non mais la science est en évolution, mais comme au 19e siècle, elle a évolué. L'industrialisation au 19e n'a pas fait que créer des gens logiques. Le spiritisme est apparu, le martinisme est apparu à la même époque, etc. Il en va de même.
C'est quoi le martinisme?
C'est des mouvements sectaires.
D'accord,
et
je croyais que c'était
des
gens qui
vivaient
du martinisme.
Non, du tout. Non, mais c'est pas plus. Enfin, tous ces mouvements occultistes qui ont été très très importants, et puis même le spiritisme qui a été très important. Donc, au même moment où on découvrait quand même que voilà. Et ben, c'est pareil pour nous. C'est-à-dire qu'on est dans une époque où on peut se voir sur un tout petit écran et se parler comme ça, et en même temps, on est capable d'investir du temps, de l'énergie dans du jeu, dans une gamisation. On gamise de plus en plus et on se crétinise en même temps. Donc c'est pas ça ne va l'évolution de la science ne va pas de pair avec une évolution des consciences et de la rationalité. C'est ce que démontre très bien Gérald Bronner dans La démocratie des crédules, par exemple.
Mais par exemple, est-ce que c'est une raison pour s'attaquer à l'Ovalie?
Ouais, il y a aussi des sujets où on rigole, quoi.
Nous, ça nous parle.
Le rugby, c'est gratuit.
Les valeurs de l'Ovalie, je vais vous dire, là, je me suis senti attaqué.
Mais Philippe, moi, j'adore ça aussi. Mais en fait, pour tout vous dire, c'est Sébastien.
On a déjà fait la fête avec des rugbymen, on en connaît plusieurs.
Les clichés, toi. Là, on a tous les clichés.
Non, la réalité, c'est que les valeurs de l'Ovalie, c'est quand même la plus grosse escroquerie marketing.
C'est d'abord une escroquerie, mais je suis très pote avec Vincent Moscato.
C'est voilà.
Moi, c'est mon émission préférée.
T'es un ami, qui est vraiment un ami. On se connaît bien, ouais. Donc j'assume pleinement le truc, mais comme dit Sébastien, les valeurs de l'Ovalie, non mais on l'a encore vu il y a 3 jours, les valeurs de l'Ovalie, il est joli le coup de coude.
À une époque, c'est parce que c'était beaucoup plus clivant et c'était beaucoup plus coupé en deux, donc il y avait le monde d'en haut, il y avait le monde d'en bas.
Mais je sais aussi, Philippe, qu'il y a des gens, puisqu'on est sur Beurre FM, il y a des sujets de société importants qui sont traités chez vous, mais quand même, moi j'ai entendu des gens préférer le rugby pour d'autres raisons que sportives. Il y avait un petit côté...
Troisième mi-temps, mais c'est, après,
non,
ça.
Non, Philippe, identitaire. Il y avait un petit côté, nous, chez nous, on est chez nous, et on est chez nous.
Voilà. On a pris un coup, quand même, le rugby, c'est identitaire.
Mais j'adore le rugby, quand ça...
C'est très diversifié, quand même.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que par rapport au foot, moi, j'ai dit... j'ai souvent entendu le foot
en amateur,
c'est machin, le nanan, et le rugby, c'est noble, et le rugby... Non, ça... Ah oui, arrêtez...
Venez en Ovalie, vous allez voir aussi c'est noble.
Non, mais en l'occurrence,
on va vous montrer. Moi, j'ai.
En l'occurrence, nous, tout ce qu'on voulait dire, c'est qu'on adore ce sport. Laisse le payer un peu parce que ça nous fait rire.
Ouais, voilà.
Ce qui nous fait rire, c'est que des mecs de 2m50 qui ont l'habitude de s'asseoir sur la tête des autres nous expliquent que les valeurs de l'Ovalie, c'est un super sport. Ça nous fait marrer. Voilà, ça nous fait rire. Et en plus, il y a quand même un débat derrière. C'est qu'en ce moment, il y a un gros problème de sécurité sur le rugby parce que les joueurs sont trop forts. Les joueurs en particulier deviennent trop forts, trop jeunes.
Ou trop jeunes, parce que ça arrive surtout chez les ados.
Et on sait qu'il va falloir porter une armure, on sait qu'il va falloir porter un casque. Mais si, il va falloir porter au moins un maillot rigide type moto derrière, parce qu'il y a trop d'accidents. Et donc le débat doit s'ouvrir.
Encore une fois, ça concerne essentiellement pour l'instant les ados.
Et le débat doit s'ouvrir.
Oui, mais on peut en parler.
Aujourd'hui, mais même chez les pros, il y a des accidents qui sont monstrueux.
Il y a toujours eu.
Ouais.
Maintenant, on a supprimé les entrants. Moi, je demande pas, on rentrait en mêlée, en bélier.
Oui, je sais.
Ça a été supprimé, tout ça. Il y a beaucoup
de passes. Est-ce que ça valait le coup?
Mais c'est pour ça qu'on jouait. C'est pour ça qu'on jouait, monsieur.
Mais c'est ce qui nous fait rire avec les valeurs de l'Ovalie.
Voilà.
Après, vous êtes des adultes, vous faites ce que vous voulez. Si vous avez envie de vous mettre des tartes dans la figure avec des gens très gros, ça ne me pose aucun problème.
Mais non, mais au rugby, ils sont plus gros. Avant, on était gros. Maintenant, ils sont tous très gros. C'est ça la différence.
Ah oui. Mais en même temps, quand un mec de 130 kilos arrive lancé. Moi, j'ai des doutes sur ma survie, quoi.
C'est quand on a vu arriver John Alumu, ça nous a fait peur. Hein.
John Alumu, c'est un peu pour faire écho à ce que dit Sébastien. John Alumu, on était vraiment dans quelque chose qui, à mon avis,
on n'avait jamais vu ça.
Voilà, et c'était de l'art.
C'était le premier de ce qui allait arriver.
Voilà, c'était le premier.
C'était le Tyson. C'était le Tyson du rugby. C'était un truc qu'on n'avait jamais vu.
Ils m'ont perdu. C'est tout à fait ça le livre. Ça veut dire qu'on parle d'un truc marrant.
Bill Gates
et sur un sujet.
Bill Gates, le plus grand philanthrope du monde, ça c'est drôle.
Ouais, ça c'est drôle.
Ah, vous nous distribuez des bons points.
Non, mais ça me fait rire parce qu'en fait, il y a eu tout un super bouquin qui a été écrit là-dessus.
Ouais.
Personne ne relaie et tout le monde dit crème, Bill Gates.
C'est un défaut des médias aujourd'hui, c'est que ce sont devenus finalement des relais d'agences de presse. Donc, les journalistes, quand on leur dit Bill Gates est l'homme le plus généreux du monde, ils disent Bill Gates est l'homme le plus généreux du monde. Voilà. Mmh. Et en fait, il suffit de faire 2 heures de journalisme pour se rendre compte qu'en fait, pas du tout. D'abord, il place son argent. Ensuite, grâce à sa fondation, il oriente des investissements qui sont majeurs vers des entreprises amies.
Hein, il fait du business même
bien
dans
sûr.
Le
bien sûr,
dans le philanthropisme.
Mais c'est voilà. Très américain. Faut juste le savoir.
C'est ce que j'allais dire, tout le monde fait ça. Ils créent tous des fondations pour pouvoir mettre leur argent dans un endroit pour orienter vers des partis politiques, vers
si
des
lobbies,
etc.
La vision c'est connu, ça. Un peu française que moi je remarque sur ce sujet et même chez les journalistes, c'est de mes confrères, c'est que j'adore. C'est quand même de dire. Regardez, il est très généreux et ensuite il tique sur la défiscalisation. Ça c'est très français. On déteste la défiscalisation, donc regardez il défiscalise. Ce qui est pas vraiment exact. Mmh. En réalité il défiscalise pas. Il utilise une fondation pour pouvoir investir de manière massive dans certains domaines. En l'occurrence les medtech, l'agroalimentaire.
Et c'est pas grave en soi.
Par exemple, vous savez qu'il y a une maladie qu'il a choisi d'éradiquer, je ne sais plus laquelle c'est, mais les médecins ne voulaient pas éradiquer cette maladie-là.
D'accord.
Et lui en a fait son cheval de bataille.
C'est pas le palu ou ça ou non.
Si, si vous voulez, qu'il y ait une fondation aujourd'hui qui a plus de pouvoir que l'OMS financier, c'est quand même. Moi, qui suis un peu liberté, égalité, fraternité, la République, tout le tralala, quand je vois ça, le transfert de compétences des États. Vers des multinationales dirigées par des geeks issus des fraternités américaines. Je suis très 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 dubitatif. Voilà, c'est pas un truc qui m'amuse. J'ai très peur.
T'as tort parce que c'est très drôle.
Vouloir faire la Macron, mais en même temps, il fait ce qu'il veut de son argent.
Est-ce que c'est son argent? Parce que vous savez que Microsoft, justement, fait de l'évasion fiscale de manière majeure.
Oh là, il y a un
débat. Aujourd'hui,
c'est parti.
Est-ce que c'est vraiment son argent? Et ensuite, les subventions qu'ont obtenues toutes les entreprises de nouvelles technologies de la part de l'État américain, leur implication avec l'armée et les services secrets américains, est-ce que c'est vraiment son argent? C'est un vrai débat. Est-ce que c'est à lui de décider que 50 milliards doivent sortir parce qu'il affiche des belles fondations?
Non, moi je fais l'avocat du diable.
Elle est sous le charme, il est jeune. Nous, on a morflé au début.
Il a 38 ans.
Mais là, il y a un jeune.
Non, c'est l'effet Jon Snow, un peu, je crois, à l'échelle.
Voilà, mais ça y est, quoi.
Winter is coming. Non, je rigole. Mais non, justement, ce qu'il y a dans le livre, c'est que. Non, mais c'est très. Ce que j'ai dit au début, quand avant que vous soyez en retard,
c'est
que. Pendant que vous n'étiez pas là, avant votre arrivée.
Voilà.
Non, c'est que justement, c'est très drôle, mais en même temps, c'est pas drôle pour être con. C'est pas simplement con, c'est drôle parce que ça amène à des vrais sujets, à des vrais débats, des vraies discussions. Et c'est pour ça que le livre, il est pas léger dans la substance, mais il est juste léger dans la façon, dans l'absorption. On l'absorbe facilement, mais il amène vraiment à des vrais questionnements, à des discussions. C'est vrai qu'il faut l'offrir, ce livre-là. C'est un vrai livre à partager. Non, c'est vrai.
Mais on fait très attention à ça.
Ouais.
Sur le bouquin sur la religion, le premier qu'on a écrit ensemble, qui était extrêmement touchy. Il fallait pas dire de conneries, il fallait qu'il soit extrêmement documenté, et il fallait pas blesser les gens. Donc on a tout fait pour ne blesser personne dans ce livre.
Ouais.
Voilà, et tout le monde rigole. Et ce qui est très drôle, c'est que quand on nous appelle sur le bouquin de la religion, par exemple, c'est les juifs nous disent oh là, qu'est-ce qu'ils prennent les musulmans,
qu'est-ce qu'ils prennent les juifs,
oh là 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 là. et ainsi de suite. C'est ce qu'on a essayé de faire.
Bon, en tout cas, clin d'œil pour terminer cette émission, c'est Bernard Tapie qui chante une très très belle chanson qui s'appelle Réussir sa vie, et ça c'est pas con.
Non, c'est pas con.
Voilà, Samir Bouadi et Sébastien Durvet étaient nos invités aujourd'hui. Merci. Bon week-end sur Beurre FM.
Merci.
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 Au milieu des nuages et devant un avion, rêver d'un voyage, réussir sa vie, c'est croire en l'instant où tout est magie, où tu es géant. Sans savoir pourquoi ni pour qui, à l'aventure tout simplement, c'est d'être un président bien n'importe qui, et de prendre le temps d'aider un ami, c'est de gagner en bourse comme on jouait Toupi, et de finir sa course le soir en famille. Réussir sa vie, c'est d'abord choisir, c'est d'avoir envie de tout devenir. Réussir sa vie, c'est prendre la main d'un enfant, le cœur d'une femme qui te sourit à l'aventure infiniment. C'est d'être au carnaval, un
l'un des rois de la fête. Le croire en son étoile, même les jours de défaite. C'est d'aimer le plaisir, le travail et l'orgueil. C'est de toujours se dire qu'on n'est jamais tout seul. Réussir sa vie, c'est vivre au présent, mais d'avoir envie de vivre sans temps. Réussir sa vie, soit poète ou soit paysan, moitié méchant, moitié gentil, à l'aventure évidemment.
Retrouvez le Book Club tous les dimanches de midi à 13h sur Beurre FM.